Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh. Ça c'est de la vie, je crois. Ah, c'est magique cet endroit.
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Oh, ok, bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène un peu à travers le monde, à travers un parcours, celui de Camille qui a vécu des choses assez incroyables à travers du bénévolat, à travers des working holiday visa. Et elle avait vraiment envie de partager ces expériences, qu'elle n'en a pas eu qu'une, qui ont été fortes, qui ont changé pas mal de choses dans sa vie et dans sa façon de voir le monde. Et moi ça faisait longtemps que j'avais pas reçu une nana qui avait vécu autant de choses aussi différentes et incroyables, et je suis très content de te recevoir dans ce podcast. Comment ça va, Camille?
Salut Alex, écoute, ça va bien, merci.
Écoute,
ravi d'être là.
Écoute, je suis vraiment content que tu témoignes là-dessus, parce que quand tu m'as encore une fois envoyé un petit mail, parce qu'en ce moment je reçois pas mal de mails de gens qui ont envie de partager ces expériences, parce que ça vous a tellement touché que vous avez envie de le partager, et j'adore la démarche. Et quand j'ai vu tout ce que tu as fait, j'ai fait « Ah ouais, je pense que ouais, ça mérite un petit podcast, tu vois. » Et moi, ma première question, c'est quand tu as eu à peine 18 ans, t'es parti faire un bénévolat au Cambodge avec les enfants qui vivent dans les décharges à Phnom Penh au Cambodge. Qu'est-ce qui t'a donné envie à 18 ans de te lancer dans une aventure comme ça? C'est quoi qui t'a dit non, je vais pas aller à la Grande Motte, je vais aller au Cambodge aider des enfants qui vivent dans les décharges?
Le point de départ, je pense que c'est d'abord parce que j'avais envie de sauver le monde. Je n'ai pas fait les choses à moitié. Je me suis dit que c'était chouette d'aller voir à l'autre bout du monde. En fait, j'ai fait mon bénévolat parce que grâce à une colonie de vacances bénévolat. Et je trouvais l'idée génialissime. Ça permettait de rassurer les parents, ça permettait que moi je m'en aille. Et du coup, c'était juste le deal parfait. Et là, en fait, je me suis pris une grosse claque.
J'imagine, parce que, encore une fois, tu as 18 ans, c'est à peine le bac, on est encore au lycée. Je pars en colo quand même, parce que ça reste une colo. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est quoi les émotions que tu as ressenties?
Waouh! Les émotions, c'était d'abord, ça va être génial. Je vais. Les émotions avant, après, pendant.
Mais je trouve que c'est super intéressant, justement, l'évolution. Surtout à ce moment-là, en fait. Tu partais donc en disant « Ouais, ça va être génial, je vais sauver le monde. »
Exactement, ça va être génial. En plus, on part avec un petit groupe, ils ont l'air cool. Pour pouvoir partir, j'ai fait des gâteaux, des cartes postales et on les a vendus à la sortie de la messe à qui mieux pour avoir un petit paquet d'argent.
Ouais.
Sur place, c'est le Cambodge, donc il fait chaud. C'était la première fois que je partais toute seule. Donc, c'était c'était la grosse humidité, c'était en plein été français, donc c'était la saison des pluies. Vraiment, c'était quelque chose que je n'avais pas pu imaginer avant. Et du coup, c'était vraiment, vraiment waouh. On avait des interprètes avec nous qui, en fait, étaient des jeunes enfants qui avaient été sur la décharge de Phnom Penh avant, avec lesquels on était en train de faire des animations.
Ouais.
Et du coup, ils avaient des histoires terribles. Il y en a une, ses parents l'avaient vendue en Thaïlande. Et en fait, ils ont été récupérés juste avant qu'elle parte avec... Tout le monde avait des histoires de fous comme ça. Et toi, t'es là avec, tu reviens en France avec ton portable qui a pas été, qui a une rayure ou qui va pas comme il faut. T'es là, non mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas continuer comme ça à être j'en trouve même pas le mot.
Est-ce que ça a remis tes problèmes au quotidien dans une autre dimension?
Ah ouais, c'est exactement ça. C'était vraiment. Une perspective différente, c'est là est-ce que c'est vraiment grave? Ah non, c'est pas vraiment très grave, du coup je vais peut-être arrêter de me plaindre.
Parce qu'à un âge aussi jeune, vivre quelque chose d'aussi fort qui n'était pas lié à toi, parce que t'avais la chance d'aller aider, mais t'as pas eu toi un truc grave. Est-ce que tu es revenu comme quelqu'un de justement blasé parce que tu dis mais en fait le monde il est horrible et que nous on a de la chance et que tout le monde est aveugle? Est-ce que tu étais révolté ou est-ce que tu avais envie de donner plus? C'était quoi l'état d'esprit dans lequel tu es rentré?
J'avais envie de repartir.
Ah ouais.
Quand je suis revenue, on avait fait un diapo, enfin je ne sais plus exactement ce que j'ai fait, mais on en a parlé à des gens. Je suis allée dans mon ancienne école pour parler de ça. J'ai voulu faire en sorte que les gens autour de moi puissent comprendre ce que j'avais pu vivre,
Vivre, ouais.
ce qui est jamais possible. Mais bon, j'ai
Évidemment.
tenté. J'ai tenté. Je ne pourrais même pas dire, je me souviens pas de si ça avait eu un impact. En tout cas, pour moi, c'était sûr que je repartirais un jour.
Et à ce
Donc,
moment-là, parce que la première fois tu partais pour sauver le monde, la deuxième fois tu partais pour quoi en fait? Parce que j'imagine que ta vision des choses a dû changer aussi.
oui, puis je suis repartie, j'avais un métier, j'étais infirmière, donc
Ok.
c'est quand même.
Ah donc
Je pouvais encore.
ça a orienté tes études ou pas? Parce que l'infirmière,
Non.
c'est quand même l'aide à la personne.
Oui,
Mais t'avais déjà
mais
ça en tête.
j'avais déjà fait les concours pour être infirmière avant de
D'accord,
partir.
d'accord.
Mais j'étais infirmière la deuxième fois que je suis partie.
Et t'es
Et
parti où la deuxième fois?
j'ai fait Inde-Malaisie.
Bam, dans le dur, combien de temps?
En totalité, 6 mois. Donc j'ai fait un mois en Inde.
Ah ouais, c'est des. Non, mais c'est pas les 10. Enfin, la première fois, c'était quoi? C'est une
En
mission de
Malaisie.
2-3 semaines? Quelque chose comme ça? Là, tu repars 6 mois dans le dur. Et c'était pour quel type de mission cette fois? J'imagine que c'était orienté sur tout ce qui était soins et infirmerie.
C'est ça. En Inde, j'étais là pour aider dans un petit dispensaire au milieu des montagnes. Pas du tout dans le coin touristique. Je n'étais pas très loin du Népal.
D'accord.
Et donc, petit dispensaire où il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Je me souviens d'avoir soigné une femme qui avait été. On lui avait enlevé un sein pour un cancer du sein. Et
D'accord.
vraiment, les soins qu'on avait rien à voir à. Enfin, la prise en charge que tu peux avoir quand tu es en France, quand tu as tous les compresses, les pansements, tout ce qui va bien.
Ouais.
Et toi, tu arrives avec toutes tes connaissances d'un pays riche à aller aider en Inde. C'était vraiment catastrophique, quoi. On perdait pas une seule compresse et il fallait tout. Mais du coup, c'est génial parce que
Ah, tu veux dire qu'en
ça
gros.
remet
Ouais, parce
en
que par rapport à
position.
ce que toi tu aurais pu faire, tu ne pouvais rien faire, entre guillemets, parce que le matériel n'était pas là. Et que du coup, déjà, le peu de matériel qu'il y avait, tu le mettais à l'endroit, à l'envers, tu le retournais, enfin, tu l'utilisais
C'est
jusqu'à la
ça.
moelle, quoi.
Exactement. Parce qu'en fait, chaque compresse coûte de l'argent. Et donc, ça, nous, on ne s'en rend pas compte en France. Et du coup, c'est génial de dire, OK, là, j'ai dans la pharmacie, j'ai des sirops qui sont là depuis 1986, donc date de ma naissance, et ils sont toujours là, quoi. Du coup, j'ai fait un peu de tri, j'ai gardé tous les trucs qui étaient à 5 ans de péremption, mais avant, j'ai quand même tout dégagé. Mais c'est là où tu te rends compte de la différence
De
de
la
pas de point
chance.
de vue, parce
De la
que
chance
mais
qu'on
la
a.
chance que tu peux avoir en France et la chance que, enfin pas la chance, mais finalement on peut se débrouiller avec pas grand-chose, et c'est bien de l'apprendre aussi.
Ouais, c'est bien de prendre conscience que de toute façon on est ultra privilégié, que nous on se plaint tout le temps, mais qu'au final on a le nec plus ultra de ce qu'il est possible d'avoir. Et que en fait. Évidemment, c'est toujours mieux de l'avoir, hein. Clairement, on est content, mais qu'on peut aussi arriver à faire certaines choses sans, et ça t'a appris à réfléchir autrement, c'est ça?
Exactement.
Question pratique bête, si je suis infirmier ou infirmière, comment je fais pour trouver une mission comme ça? Surtout en paumé au fin fond de l'Inde, c'était passé par quoi? Est-ce qu'il y a un truc particulier pour les infirmiers ou infirmières ou pas du tout?
Alors, il y a tout ce qui se fait aujourd'hui, Médecins sans frontières et tout ça, c'est
Ok.
possible, mais il faut minimum, à revérifier, moi quand je m'étais renseignée, il fallait minimum 5 ans avant de
Ok.
pouvoir partir de travail en France,
Ok.
avant de pouvoir partir avec eux.
Ok.
Et donc moi je suis passée par une petite association catholique, les
D'accord.
Missions étrangères de Paris.
Ouais.
Les MEP, donc
Ok.
MEP, qui en fait mettent en contact des jeunes qui veulent faire du volontariat. Donc ça peut être n'importe quoi. Tu peux être infirmier, mais tu peux être n'importe quoi. Et
Ok.
selon tes capacités, on
On
va te donner
t'oriente
une
par rapport au
mission
contact qu'ils ont.
qui. C'est ça. Et ensuite, on t'envoie dans une association qui est sur place, géré sur place par des
Ok.
gens locaux.
Ouais.
Et en fait, après, c'est toi qui développes quelle va être, pas ta mission, mais là où sont tes points forts et ce que tu peux faire sur place, grosso modo.
D'accord. Et après ce premier mois, donc au fin fond de l'Inde, tu pars en Malaisie.
Je pars en Malaisie.
Et là, t'as
Là,
fait quoi? C'est
changement de
plus le même game.
programme. Plus du tout. Là, j'étais responsable d'un centre pour femmes et enfants, VIH, donc SIDA, hein,
Donc
qui
SIDA1, et je
était.
préfère encore reclarifier, VIH-SIDA1, des personnes qui sont porteurs du virus du sida. Voilà. Donc,
Merci.
évidemment, non, je préfère repréciser, tu vois, on n'est pas dans du glamour, tu vois, c'est quand même compliqué. Je pense que la charge émotionnelle au quotidien. Bon, après, tu es infirmière, mais moi, je me dis quand même que tu prends quand même un sacré tampon, quand même. Ou pas, ou je me trompe, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'es arrivé là-bas?
Ah
Ah,
ben,
bah, ça
là
pique,
tu
hein.
dis gloups, ça pique. Grosso modo, les gens en Malaisie, c'est un peu un système de caste. Tu as les
Ok.
Malais qui sont les. C'est très schématisé, hein,
Ouais.
mais tu as les Malais qui sont ceux qui sont dans les bureaux en termes d'État. Tu
Ouais.
as les Chinois qui ont l'argent.
Ouais.
Et tu as les Indiens, donc d'origine indienne, mais qui sont
Ouais.
malaisiens, qui sont des ouvriers. Et en
D'accord.
dessous de tout ça, tu as les réfugiés. Donc, on est en Malaisie, pays musulman.
Ouais.
En Birmanie, tu as des zones de conflit. En tout cas, moi, quand j'y étais, c'était zone de conflit. Et là, nous avions des Rohingyas, donc une petite population musulmane en
Ouais,
Birmanie,
qu'on a bien entendu
qui,
parler ces derniers temps,
exactement,
mais
qui du coup.
qui était inconnu à l'époque.
Ouais, ça commençait à se connaître, mais après, effectivement, ils sont. On a.
Et du coup, il y avait des réfugiés là-bas, et c'était surtout eux que tu avais dans ces centres-là?
Exactement. Grosso modo, moi, l'association avec dans laquelle je suis partie, ils étaient un centre vraiment à peut-être 1 heure et demie de Kuala Lumpur,
Ouais.
qui est la capitale de la Malaisie. Et en fait, on nous appelait pour nous dire donc soit des hôpitaux, soit d'autres associations, soit l'ONU qui nous appelait en disant ben voilà, on a une personne qui est sans ressources financières, qui n'a pas de qui donc pas de logement, qui vient d'être diagnostiquée malade et qui a pas de toit, qui a besoin de soins, est-ce que vous pouvez l'héberger? Et nous, on la prenait en charge pendant une durée indéterminée. Il y en avait, elles étaient là depuis 5 ans.
Wow, ok.
Après, des fois, c'est juste un tremplin, en mode, bah, elles ont un petit peu de famille, c'est juste le temps de les recontacter ou de
Ouais,
voir
ouais.
pour avoir les médicaments. Du coup, on faisait les visites médicales, donc on allait à l'hôpital avec elles, on faisait les visites médicales. Ensuite, on a essayé de chercher des personnes pour donner des médicaments, parce que ça
Ok.
coûte une blinde.
Ouais,
Et donc,
ouais.
voilà. Et avec tout ça, moi, je devais gérer comment. Grosso modo, quand j'y étais, la Malaisie avait plus de 10% de PIB. Et du coup, il y avait
De croissance, tu veux dire,
plein.
sur son PIB?
Ouais, de croissance, ouais,
Ouais.
de croissance. Et grosso modo, toutes les supermarchés, tout ça, étaient prêts à aider, donner du surplus.
Ah, ok,
Et
cool.
du coup, en fait, on faisait des demandes par mail, par contact, pour récupérer de la nourriture pour que nous, on puisse vivre, donc, pour que ça coûte le moins possible. Nous, on
D'accord.
avait les
En plus, c'est
locaux.
un pays musulman et c'est vrai que bah, pour les musulmans, c'est super important de donner aussi une partie de leurs revenus et aux populations qui en ont besoin. C'est quand même dans la culture.
Tout
Et
à fait.
c'est bête, mais le quotidien, alors je suis infirmière, je suis en Malaisie, je travaille avec des personnes qui sont porteuses du virus du sida. Ça, c'est ta mission au quotidien. Comment la vie au quotidien en tant que Camille personne, ça se passe? Il y a des moments de joie, il y a des moments de beaucoup de pleurs, il y a des moments où t'es paumé dans ta chambre, tu dis qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi sur 5 mois la vie de Camille en tant que personne?
Alors, il y a eu beaucoup de moments où j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là?
Ouais.
Pourquoi je suis là? Quand, par exemple, l'une des responsables, j'étais pas toute seule, donc il y avait des gens pour chapeauter le tout.
Ouais.
Et une des responsables vient me voir et me dit, moi j'arrive de la veille, elle me dit, oui, est-ce qu'on doit donner à manger à un petit garçon de 2 ans qui n'a pas eu encore la diversification? On savait, tu sais, quand on est plus petit, on boit du lait et puis ensuite on commence à manger d'autres choses. Et là, elle avait décrété que c'était aujourd'hui qu'il fallait lui donner à manger. Et moi, j'y connaissais rien, j'avais pas d'enfant. J'étais là, je sais pas comment on fait ici. Du coup, c'était vraiment, on considérait comme celle qui avait grosso modo la science infuse, alors que je l'avais pas du tout. Moi, j'avais pas du tout ce sentiment-là. J'étais là, ok, on coule pas, ça va y aller, on va y arriver. Et c'était vraiment chaud, mais à la fin, c'était vraiment. On avait envie, j'avais envie d'avoir, j'avais envie de dire que à la fin, je voulais plus partir. Je voulais plus partir parce que en fait, j'aimais être celle dont on avait besoin. Et ça donne un sentiment même si des fois c'était des questions. Genre, j'avais aucune réponse à ce genre de choses, mais ça me permettait de me dépasser pour pouvoir aider d'autres gens, et j'ai trouvé ça super chouette.
Et tu t'es senti justement appartenir à un groupe et que tu trouvais ça. En fait, tu avais l'impression d'avoir trouvé ta place et qu'il y avait des gens qui te faisaient confiance et que du coup, c'était ultra stimulant de se dire qu'il y a des gens qui avaient besoin de toi et que du coup, ben, au lieu de te cantonner à faire un peu ce que tu fais d'habitude, tu vas te défoncer, te dépasser pour pouvoir ben, remplir des attentes que les gens ont de toi, c'est un peu ça?
Ouais, c'est un peu ça.
Et c'est. Quand tu dis que tu voulais plus partir, qu'est-ce qui a fait que t'es parti?
J'avais un mec
Ah
en France.
putain, ah, tout de suite une histoire de cœur. Ah bah voilà. Et
Et
donc,
voilà.
et en France il était, j'imagine du coup.
Il était en France. Ouais.
Et alors quand tu rentres de 6 mois de complet déphasage et que où tu te sens finalement chamboulé mais utile et qu'en plus tu dédies ta vie à l'aide des autres, qui est quand même un truc ultra valorisant, je pense, cérébralement parlant, t'arrives en France. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça parce qu'on le parle, le voyage c'est super, on rencontre des gens, on parle pas souvent du retour. Et vu que toi t'as eu souvent des retours, je trouve ça intéressant que t'en parles aussi. Parce que celui-là il a peut-être pas dû être facile.
Aucun des retours est facile, je trouve.
Ouais.
On a toujours cette période où on a le corps en France et la tête là où on vient de quitter les gens, en fait.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment un sentiment de d'écartèlement.
Mais qu'est-ce qui
Parce
fait,
qu'en fait.
que tu repars si ce sentiment il est horrible? Et surtout, pourquoi tu repars, mais surtout comment tu fais pour rebondir? C'est quoi ton secret pour rebondir à chaque fois?
Des nouveaux projets. Là, par exemple, pour ce retour-là, on a emménagé ensemble avec mon copain et ensuite, on s'était dit à mon retour qu'on repartirait.
Il y avait des projets, il y avait ça allait de l'avant, il y avait des perspectives, il y avait des objectifs. C'est un peu ça.
Exactement. Ouais. Quand tu reviens et que tu as réfléchi à rien, que tu sais pas où tu vas, là, c'est encore pire. C'est pour rebondir, ça prend beaucoup plus de temps.
Et ce côté, tu sais, un peu crève-cœur de ton, comme tu dis, t'étais tellement chamboulé par les émotions entre bah, la joie de retrouver ton copain, d'avoir des projets, et la tristesse d'une nostalgie, de sentiments qui te manquent que tu vivais là-bas. Et ça te prend combien de temps en général? Bah, sur celui-là, mais même en général, c'est des périodes de quoi? 2 semaines, 2 mois, 6 mois?
Là, je suis revenue il y a 2 mois
Ouais.
et je trouve que c'est encore difficile.
D'accord. Et c'est non,
Donc,
mais ça veut dire que même à chaque fois, et même avec autant d'années dans le voyage, quand tu te mets corps et âme dans quelque chose, c'est compliqué, c'est ça?
ouais.
Et
Après, l'inverse est vrai aussi.
c'est-à-dire?
Que des fois, le moment où, là, par exemple, tu as prévu ton voyage, tu pars, tu es content, tu dis au revoir à tout le monde. Une fois que tu es au début du voyage, alors, ça dure beaucoup moins longtemps parce que c'est bien plus excitant de partir, mais il y a toujours un moment où tu dis, ah, j'aurais peut-être mieux fait de rester. Mais il reste pas longtemps celui-ci.
Et question plus légère, comment tu décides, parce qu'on va après on va j'aimerais que tu nous racontes tes autres aventures qui étaient un peu plus légères aussi, mais comment tu décides de tes prochains voyages, de tes prochaines aventures?
Je me laisse un peu porter par le vent, je pense.
C'est-à-dire?
Je suis un peu.
Bah, mais
suis un
quand
peu
tu
dernière
vas
minute.
en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour... parce que j'ai vu que tu as été au Canada, à Hawaï, là dernièrement, tu as été entre l'Antarctique et l'Arctique. Je veux dire,
C'est ça.
est-ce que c'est quoi? C'est tu t'as envie de certaines choses et il y a des opportunités qui se présentent et tu dis, vas-y, je prends ça parce que ça se présente, ou est-ce que tu as des envies particulières que tu essaies de matérialiser?
Je suis plus, il y a une opportunité, je la prends. Je sais pas que j'ai pas d'envie, c'est juste qu'en fait, je suis ouvert à tout. Tout quand on parle du voyage, je suis ouvert à tout.
Et c'est ça, je pense que c'est la alors ça pour le coup internaute, c'est la meilleure des choses. Moins t'as d'attente, plus ce qui va venir, ça va te faire kiffer. Parce que vu que de toute façon t'y vas pour le plaisir d'y aller, bah ce qui vient, bah ça vient et c'est déjà kiffant. Et ça, c'est une vraie force d'arriver à le garder à chaque fois, parce que bah, plus tu fais de voyage, plus tu cherches un espèce de sentiment ou de dépassement ou un truc particulier parce que t'as déjà vu plein de choses. Et ça, c'est la meilleure connerie à faire pour être sûr de d'être déçu de son prochain voyage. Donc ça. Ça, chapeau Camille d'arriver à garder ça. Il y a un truc qui... On reste un peu dans les... Avant de partir dans des récits un peu de voyage, mais comment tu concilies aujourd'hui, et ça je pense que c'est une question auquel je peux pas répondre du tout moi en tant qu'homme, parce que tu approches de la trentaine ou tu l'as peut-être dépassé, si je dis pas de conneries, et tu as beaucoup
Je l'ai
voyagé,
dépassé.
tu as... Merde, tu as dépassé. T'inquiète, moi ça fait longtemps que j'ai dépassé. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui doivent se retrouver dans la situation aujourd'hui, qui ont peut-être commencé à vivre un certain cheminement, une certaine vie. Qu'elle est ce qu'elle aime et qui dans lesquelles elle se sentait pas complètement épanouie et qui aimerait vivre autre chose, que ce soit peut-être 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais qui se l'interdisent parce qu'en tant que femme, tu sais, il y a le regard de la société, il y a l'espèce d'horloge biologique qu'on se met parce que les gens te disent que c'est normal. Enfin, tu sais, tout ce truc que tu te mets toi, plus que les gens te mettent sur toi, plus que la société te met une chape pour bien tasser tout ça. Et j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Comment toi tu te positionnes par rapport à dire des envies de femmes, des envies de famille, des envies de je sais pas quoi, de foyer ou est-ce que c'est un truc que tu arrives à combattre, c'est un truc que tu n'as pas du tout ou est-ce que c'est quoi ton positionnement là-dessus?
Alors, le nombre de gens qui me disent ah mais t'es pas trop solitaire, ah mais t'as pas envie d'enfant, ah mais et t'as pas envie d'un homme là, tu sais, de construire une famille. Moi je l'ai eu il y a 2 jours avec ma maman
Ah
qui
ouais.
m'a généreusement posé encore une
Oh
fois la
là là,
question.
sympa maman.
Merci.
Et non
Et
mais
en fait
justement, ouais justement, c'est quoi le ce enfin comment tu le vis?
tout dépend de si t'en veux ou pas. Si t'as envie d'avoir un enfant,
Ouais.
effectivement, des fois, il faut peut-être. J'en sais rien, j'ai pas la réponse. J'ai pas envie d'avoir d'enfant aujourd'hui. Du
Ouais.
coup, je peux pas dire à celles qui en veulent, bah, faut s'arrêter ou pas s'arrêter. Mais en tout cas, pour moi qui en ai pas envie, bah, j'envoie balader les gens et je leur dis, c'est bien gentil, mais c'est pas ce dont j'ai envie. Donc, voilà, next.
Tu t'éclates
Mais.
pas sur le sujet. En fait, ça te saoule qu'on me pose tout le temps la question, mais toi, dans ta tête, c'est clair, c'est pour le moment, j'ai pas un clic, donc je vis ce qui me fait vibrer, en fait, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est quoi,
Après,
du coup, c'est quoi le. Si une nana qui écoute le podcast, là, et là, elle dit putain, mais moi non plus, j'ai pas envie d'enfant, mais tout le monde me saoule, et puis j'ai un job, et puis putain, j'ai 27 ans, et puis je sais pas trop comment, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu leur conseilles?
je leur conseille de dire ok, stop. À la limite, peut-être que tu peux te faire un listing là. Il y a des fois où en fait on va se dire bah oui, moi aussi j'ai envie d'un mec. Moi aussi, bah pourquoi pas. Quand tu vois tes nièces à côté, tu dis oh, c'est mignon, c'est vrai que ça peut être cool. La maison, le chien, tout ça, pourquoi pas. Et là, il y a un jour où tu te dis, tu as eu cette énième remarque et toi tu es en train de préparer ton prochain voyage qui te fait kiffer. Eh ben vas-y, fais-toi une liste, les pour les contre, ça marche en fait, enfin, pour moi. Et tu dis, ben voilà, si je fais tout ce que la vie me demande aujourd'hui, c'est-à-dire mariage, les enfants et tout le tralala, et versus tout ce que je peux avoir à côté, je kiffe de me dire que je vais aller à tel pays, telle aventure et je trouve ça génial. Eh ben en fait, tu vas te rendre compte que tu auras certainement autant de positifs et de négatif dans les deux trucs. Enfin, à part si vraiment tu as toujours envie d'avoir un enfant, bon là, peut-être qu'il faut faire autre chose. Mais si tu as autant de positifs, parce qu'en fait, moi, ma problématique, c'est que j'ai du mal à faire un vrai choix. Du coup, il y a des fois où je vais
D'accord.
garder deux possibilités,
Ouais.
enfin, le plus longtemps possible, et puis là, je vais me retrouver face au mur et il va falloir faire le choix. Mais si effectivement, tu as envie d'avoir un mec et des enfants et en même temps tu as envie de surkiffer ton voyage, Aujourd'hui, tu n'as pas ton mec. Donc, par exemple, hein, mais
Ouais.
tu n'as pas ton mec, bah, va voyager. Tu l'auras tout certainement, tu vas le croiser sur le chemin. Donc, ça ne sert à rien de rester chez toi.
Alors pour le coup,
Alors
c'est arrivé à
que.
plusieurs amis à moi, mademoiselle, si je vous écoute, c'est ambiance burn-out, ambiance j'en ai marre, ambiance bah putain, j'ai travaillé de dingue dans ma carrière aussi, ça arrive souvent. Tu sais, les nanas qui se défoncent dans leur carrière, puis qui à un moment qui se disent ouais, bah en fait j'ai envie de penser à moi, parce que le prochain chapitre c'est quoi? C'est et ma carrière et après c'est mère de famille. Et mère de famille, c'est bah c'est se donner pour les gens, c'est le taf le plus dingue du monde, tu vois. Et en plus aujourd'hui vous devez faire ça et une carrière dans votre gueule. Donc je me dis les nanas, enfin c'est bien des gens qui doivent, et vu qu'on a un privilège extraordinaire en France de pouvoir le vivre parce qu'on a un passeport et un niveau de vie qui te permet. Mais mesdemoiselles, mais allez-y, 6 mois dans une vie ça passe tellement vite. Et au final, quand tu vis des choses extraordinaires et quand tu penses à toi, bah tu t'en souviendras toute ta vie. Alors que les 6 mois de vie normale, que tu reviens d'il y a 10 ans, tu sauras même pas dire ce que t'as fait. Alors que 6 mois de kiff et d'aventure où tu penses à toi, tu t'en souviendras peut-être de chaque jour. Et c'est ça qui est dingue. Et moi, je dis souvent, franchement, s'il y a des personnes qui méritent d'aller voyager à l'autre bout du monde, c'est bien les nanas, quoi. En plus, vous avez morflé depuis des siècles, mais faites-vous kiffer les meufs maintenant que vous pouvez, putain. Allez-y, quoi. C'est, non, mais sérieux, allez-y, c'est, et d'ailleurs, question con. Parce que je suis mal placé pour donner des conseils. S'il y a des jeunes filles, pas des, justement des femmes qui ont cette réflexion-là, mais des jeunes filles, tu vois, qui vont entrer dans les études ou qui sont peut-être même au collège ou au lycée, je sais pas, qui nous écoutent, qui se sentent qui ont des envies de voyage, mais qui se sentent fragiles, tu vois, et qui ont peur d'agir ou de partir. C'est quoi les conseils que tu leur donnerais? Tu vois, les conseils pratiques ou comment peut-être sauter le pas parce qu'elles se sentent un peu démunies face à leur envie et par rapport à ce qu'elles se sentent en capacité de faire.
Eh bien déjà, si elles veulent partir et qu'elles ont 18 ans, tu peux te tourner sur des choses genre du volontariat, comme ce que moi j'ai fait. Moi, ça m'a permis de sauter le pas sans pour autant être complètement seule.
Oui, et faire du volontariat qui est peut-être pas aussi hardcore, entre guillemets, si t'es pas aussi
Oui.
accroché. Des choses où tu peux être dans une ferme, tu peux faire du bénévolat dans des auberges, où t'es encadré, où t'as une structure. Non, mais ça peut être plus léger aussi, hein.
C'est vrai.
Non, mais
C'est vrai,
on
c'est
peut
vrai.
commencer, tu vois, step by step, tu vois, si tu... Et
Non,
après, tu
mais
vois,
en
j'ai
fait,
fermé.
je parlais plus par rapport à la structure, tu vois, les associations,
Bien sûr,
tu peux,
bien
il y a
sûr.
plein de choses. Si t'es pas infirmière, ça sert à rien d'aller dans une maison de retraite, hein. C'est sûr que c'est pas ton truc. Mais enfin, il y a tellement de possibilités. Alors maintenant, il y a aussi les groupes Helpix,
Bien sûr.
Woofing. Ça a l'avantage
Workaway.
d'être, ouais, t'as l'avantage d'avoir des points de contact. Après, tu sais pas vers quoi sur quoi tu tombes tout le temps. C'est ça
Mais l'avantage,
que.
c'est qu'il y a, c'est jamais un contrat, c'est un contrat moral. Donc s'il y a une ambiance qui te déplaît, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas en sécurité, tu te casses et tu vas sur un autre truc. Mais ouais.
Voilà, petite anecdote. La première fois où j'ai décidé que j'allais faire du stop en Nouvelle-Zélande,
Ouais.
c'était dans une auberge de jeunesse. Tranquille. Et là, je dis au gars en lui disant au revoir, bon, ben, je me casse, je vais faire du stop pour la première fois, ça va être génial. Et là, il me dit, écoute, alors il avait très très peur. En Nouvelle-Zélande, on n'aime pas les autostoppeurs parce qu'il est arrivé quelque chose à un mec il y a 20 ans et que c'est très dangereux,
Ah,
surtout
d'accord.
pour les femmes. Donc, c'est grosso modo, c'est attention. Et en fait, le mec m'a dit quelque chose qui paraît tellement logique, mais qui finalement est pas si con que ça. Et en gros, il me dit, c'est important que si il y a une voiture qui s'arrête, tu n'es pas obligé de monter dedans. Si le mec, il est chelou, eh ben tu montes pas dedans, tu dis non, en fait, je me suis trompé, je vais pas par là, ça m'arrange pas votre trajet là où ce que vous me proposez. Et en fait, c'est j'ai trouvé que ça. Tu as le choix de dire non. C'est pas parce que t'as vraiment besoin d'une voiture que tu veux bouger. Pour ta sécurité, si tu le sens pas, le mec, ou la nana, hein, des fois, ça peut être mélangé.
Ah ouais, il y en a
Si
des
tu le sais
psychos.
pas, si tu le sens pas, et t'as le droit de dire non. C'est pas parce que c'est la seule voiture qui s'est arrêtée que ça sera la seule qui va s'arrêter tout court, quoi. Entre ta vie et attendre au bord de la route, des fois, il vaut mieux attendre au bord de la route.
Clairement. Mais c'est ça, c'est, je pense que c'est valable pour tout en fait. C'est que faut bien comprendre qu'à chaque instant de ta vie, t'as le choix en fait. Et que ce soit, alors là on parle de voyage avec de l'autostop. Mais c'est pareil, que tu te sois dans ton boulot, et si un jour, tu sais quoi, tu vas au boulot et que t'en as marre, t'as le droit de dire, tu sais quoi? Ben non, ben j'y vais pas, et je vais choisir autre chose. Et inversement, t'es à l'autre bout du monde, tu sens que t'es arrivé au bout de quelque chose, t'avais prévu de voyager, 1 an, et qu'au bout de 6 mois, t'as peut-être trouvé des réponses ou que ça fait plus de sens, mais rentre. Enfin, juste rentre. C'est pas parce que t'as dit que tu partais 1 an, ou chacun a ses. Il faut s'écouter. Et là où t'as raison, Camille,
Ouais.
c'est que. À chaque instant de notre vie, on a le droit de dire non. Et on a le droit de dire oui. Et dans le côté positif comme négatif, encore une fois. C'est pas parce que t'es parti en voyage que t'as pas le droit de dire, c'est quoi? C'est pas pour moi, ou ça y est, je kiffe plus, et puis je rentre. Et alors, c'est pas un gros mot. C'est comme ça, en fait, que tu commences à être heureux dans ta vie, c'est quand t'arrêtes de choisir le chemin du on fait comme tout le monde, ou on fait ce que tout le monde m'a dit, et à chaque instant, t'appliques la loi de l'intérieur. La loi de l'instinct, celle qui te dit, ici c'est bon, ici c'est pas bon. Tu sais, c'est con. Mais quand tu commences à écouter, la vie, elle est plus facile. En tout cas, elle est plus simple. Peut-être pas plus facile, mais elle est plus simple. Parce que des fois, se rendre compte qu'on n'a plus envie d'aller au boulot, ou même on a envie de rentrer de voyage, assumer le regard des gens et les conséquences, c'est pas toujours facile.
Pas
Mais c'est
toujours
simple
simple.
de se dire, ok, bah c'est ça que je veux, je le fais. C'est simple. Bon, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans les petites anecdotes. Tu m'as dit que là, ton dernier voyage, c'était entre l'Antarctique et l'Arctique. Si tu veux, entre guillemets, t'as fait la planète entière. C'était quoi? Comment t'as
C'est
trouvé ce
génial,
truc-là? Qu'est-ce que t'as fait?
hein? J'ai travaillé l'été dernier au Club Med.
Ok.
Et là,
Tu as été chez où? Oh putain.
exactement. Donc, en tant qu'infirmière, et là, il y a un
Ah.
cuistot qui vient plusieurs fois me dire qu'il a une rage de dents. Je lui dis, bah, va voir un docteur, ça marche mieux, tu vois, un dentiste. Bref, il n'y est pas allé. On a continué à parler, et en fait, il m'explique que lui, il a travaillé sur le Club Med 2 pendant 2 ans sur le bateau.
Ok.
Et du coup, je lui dis, oh, génial, j'aimerais trop moi aussi le faire. On continue à papoter, il a toujours mal aux dents, machin. Et en fait, il me dit que la compagnie Ponant est en train de le débaucher. Compagnie Ponant, c'est quoi? Je comprends pas.
Et qu'est-ce que
Il
c'est la compagnie
me dit,
Ponant?
mais oui, c'est la compagnie Ponant, c'est les bateaux de croisière de luxe français.
D'accord.
Et en fait, ils recherchent du personnel français pour beaucoup de choses. Et il recherchait donc ce cuisinier qui me disait qu'il avait une copine qui bossait sur le Ponant et que peut-être que il pouvait me donner son numéro pour peut-être avoir un contact.
Ok,
Ni une ni deux.
voilà, ça commence à se dire, ça peut être sympa, ça, dis donc.
Exactement. Ni une ni deux. Moi, je dis, bah écoute, file-le-moi, tu vois.
Lâche-moi
J'appelle la
son
nana.
number.
J'appelle la nana qui me
Ouais.
dit non mais en fait ah oui le gars m'avait expliqué qu'elle était infirmière aussi et que du coup elle pourrait me donner tout de suite le numéro.
Ok.
Je suis très bien. En fait je l'appelle, c'était une manager spa, donc pas du tout la même chose. Et en
En fait, moi,
fait
je fais des massages, hein, je suis pas infirmière, hein. Mais ça n'a rien à voir.
et en fait chaque métier, chaque corps de métier a son manager du coup
D'accord.
ou son représentant, donc ça m'intéressait pas trop. Mais elle me dit écoute, comme je suis malade et qu'on part en Arctique, je suis obligée de voir le docteur local, je te donne son numéro.
Ok.
Je prends 2 jours, je réfléchis, je me dis attends, qu'est-ce qui se passe et tout. J'appelle le mec, je lui dis bonjour docteur, j'ai pas envie de perdre votre temps ni de le mien, est-ce que mon profil vous intéresse? Là je déblatère tout, tac 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 tac. Et une semaine après, il me renvoie un mail en me disant je vais passer mon CV et tout ça. Et il me dit je peux vous proposer départ dans 6 mois, Ushuaïa, Norvège. Pour 3 mois
Bam!
et demi. Bim!
Pour combien de temps?
Tac! Pour 3 mois et demi.
Ah ouais.
Et bim! Et moi, Ushuaïa, tu vois, je savais où c'était, mais vite fait quoi. Et pour moi, Ushuaïa voulait pas dire je vais en Antarctique. Pour moi, Antarctique, c'était encore plus bas, quoi.
Bah
Et
clairement.
en fait, c'était la porte d'entrée de l'Antarctique. Du coup, j'ai fait presque 1 mois en Antarctique et on a tout remonté.
Un
On a
mois en
fait.
Antarctique!
Ouais.
Oh le kiff! Oh! Attends, mais attends, t'as vu quoi en Antarctique?
des manchots.
Ouais, ça y
Les
en a.
manchots royaux. On a vu des baleines, on a vu des orques, on a vu plein de poissons. Des magnifiques, magnifiques
Oiseau.
couchers de soleil.
Ah, ok.
De
Et non,
ouf.
mais c'est un truc con. C'est quoi le quotidien d'une infirmière sur un bateau de luxe? Qu'est-ce que tu
Alors,
fais? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas des ongles incarnés tous les jours, tu vois.
non. Après, tu as l'équipage que tu as en charge, à peu près 140 personnes.
Ah ouais. Attends, mais
Il
vous
y
êtes
en
combien
a,
sur
par
le
exemple.
bateau? Attends, vous êtes combien? Parce que là, dans ma tête, je pensais qu'il y avait un plus petit voilier. Non, c'est un gros délire. Ok. C'est
C'est un gros
combien?
délire. 140 d'équipage pour 200 à 300 clients, passagers d'ailleurs.
Ah, t'as un mec pour deux. Ah ouais. Ouais, c'est luxe. Ok. T'as du people. Ce qui fait que t'as 400 personnes en gros, potentiellement. Il y a de la blessure pour 400 personnes.
Exactement. Donc, j'ai glissé, je me suis cassé le coude.
Oh.
J'ai glissé, je me suis cassé le doigt. C'est
Ah.
arrivé. Tu as tous ces gens qui sont. Alors, les passagers, pour aller en Antarctique, c'est quand même assez cher comme
Ouais,
voyage,
c'est
hein.
5 000 euros, je crois.
On part de le prix le moins cher par personne, 10 000 euros, sans compter les billets d'avion pour
D'accord.
aller à Ushuaia.
D'accord, ok. Bah, tant mieux s'ils ont les moyens, attends, oh, ils font ce qu'ils veulent,
Du
hein.
coup, ce sont des personnes qui, pour beaucoup, travaillent beaucoup depuis longtemps, qui n'ont pas pris beaucoup de vacances, et c'est leurs vacances. Tac, tu vois où je veux en venir? Petit arrêt cardiaque, ou
Oh
petit
non!
malaise, ou petit. C'est possible.
T'as
Du
eu
coup,
un arrêt
l'infirmière.
cardiaque?
J'ai pas eu l'arrêt
Oh
cardiaque,
putain.
mais une semaine après que je sois partie du bateau, ils en ont eu un. Donc,
Ah, le
ça
mec est
arrive.
tellement à donf qu'il a tout relâché en fait, son cœur, il s'est dit vas-y, j'en peux plus. C'est maintenant, c'est ici.
Exactement. Tout à fait.
Oh merde! Ah ouais! Et du coup, toi t'avais quoi
Et
d'autre? Genre, enfin, toi que t'as eu? Donc, doigt pété, coude
moi,
pété,
j'ai eu, c'est
nausée?
ça, non, le coup de pété, c'est ça, les nausées, forcément,
Ouais.
en bateau. T'es en Antarctique, là, c'est les 40e rugissant, c'est des vagues, donc t'es vraiment, ça
Ouais.
peut aller jusqu'à 8 mètres, voire plus si c'est du mauvais
Voilà,
temps.
la petite houle de
Donc,
bâtard, comme on dit chez moi.
exactement.
Oh putain. Et toi, t'avais pas le mal
Donc.
de mer? Est-ce que c'est con ça? Parce que, attends, tu sais le côté de job de rêve sur le papier? Je vais en Antarctique, après je remonte jusqu'en Norvège, ça va être trop bien. Et là, t'arrives, tu poses le pied, tu t'aperçois que t'as le mal de mer comme pas possible. Est-ce que ça t'est arrivé ou pas?
Ça m'est arrivé,
Oh putain!
heureusement pas longtemps,
Oh merde, d'accord,
mais
combien de
alors
temps?
les 2 premiers jours sur et une semaine après, j'ai re-eu un truc, mais vraiment t'es mal,
Ah non,
vraiment
le
t'es
mal
pas
de
bien.
mer, moi j'ai déjà eu, t'as envie de crever en fait. C'est
C'est
un
horrible.
mal entier dans ton corps, et vu que c'est lié à l'effet extérieur, à l'environnement extérieur, et que l'environnement extérieur ne va pas changer, tu es dans le mal. Le
Tu es
mal.
dans le mal. L'hôpital dans un bateau, en tout cas dans celui où j'étais, c'est à l'avant du bateau. Ce qui veut
Ah.
dire que c'est là où tu as le plus
Et pourquoi vous faites ça?
de
Parce que pour les achever directement, s'ils font chier, on les met là-bas. Vas-y, va à l'infirmerie, on va voir si tu vas faire le malin.
Bah, ça nous est arrivé, hein, du coup, d'avoir les gens qui avaient juste un petit mal de mer par prévention et qui finissent par tout dégobiller à l'hôpital. Merci.
Et genre d'expérience, parce que là, on vient de passer de l'extrême de personnes qui ont le sida et qui n'ont pas de moyens à je travaille sur un bateau de luxe, donc qui est l'élite de la nation, on va dire, pas de la nation, parce que l'élite, mais en tout cas financièrement, c'est des gens qui ont énormément les moyens et qui ont des conforts de vie, parce que je ne dis pas qu'ils valent mieux que les autres, pas du tout, mais en tout cas, ils ont un confort de vie qui est extrêmement supérieur à la moyenne et encore plus bah, à ceux que tu as pu fréquenter au début. Est-ce que psychologiquement, ça t'a affecté ou au final pas du tout?
Alors ça m'a affectée. Après, je suis pas passée de tout noir à tout blanc d'un coup. Entre les deux, il s'est passé. On est en 2019. Je suis partie en 2011. Il y a eu 8 ans entre les deux. Donc, je n'ai pas fait un claquement de doigts et tiens, on va passer des pauvres aux riches en une demi-seconde. Moi, je suis arrivée à un stade où, quand je suis revenue de Malaisie,
Ouais.
je suis restée 4 ans en France et à la fin, je supportais plus d'être infirmière. C'était plus
D'accord.
possible.
OK.
Le don de foi, ça marche, mais seulement si tu as les batteries qui sont rechargées.
Bien
Et
sûr.
moi, j'avais plus les batteries rechargées.
Ouais.
Du coup, j'ai dit, c'est pas possible. Et du coup, de revenir, donc pendant mon temps de voyage entre du coup, 2015 à 2018,
Ouais.
2019, j'ai plus été infirmière. Un petit peu au Club Med, mais c'est pareil, c'est pas la même chose.
Et du coup, t'as fait quoi? T'as réussi à te réorienter sur autre chose? Des petits boulots?
J'ai fait des petits boulots. Je suis
Ouais.
passée du travail en usine pour les kiwis en Nouvelle-Zélande.
Ouais,
J'ai
ok.
fait j'ai fait du. Après, j'ai beaucoup été serveuse.
Ouais, donc ça c'est
Service
quand tu
des
faisais des
dentaires.
working holiday visa, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
Et j'ai fait du top-up dans une boutique Edyard. Donc Edyard, c'est boutique de luxe française et petite épicerie fine.
Ok.
Et en fait, c'est grâce à ce premier boulot que j'ai réussi à avoir les autres boulots de serveur. C'était
D'accord.
bref, chacun son évolution,
Eh ben.
mais je sais pas si j'ai eu de la chance ou si j'ai provoqué ma chance. En tous les cas, aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai eu un contact qui m'a fait dire ah bah tiens, on va essayer. Et du coup, une fois que tu as la première expérience, c'est plus simple de travailler,
Un autre
d'avoir une
job.
autre expérience, un autre job, parce que tu as déjà eu de l'expérience avant.
Et justement, pour revenir sur ce côté, tu sais, ce comparatif des gens que tu côtoies en voyage avec des expériences différentes, soit du bénévolat, là c'était du travail, entre des gens extrêmement pauvres et là des gens, on va dire, extrêmement riches. Et est-ce que ce cheminement, il t'a permis justement d'être tolérant aussi et d'apprécier, tolérant vis-à-vis des gens qui avaient beaucoup d'argent et d'apprécier cette aventure de luxe, ou est-ce que justement, au fond de toi, tu étais toujours un peu réac? Parce que moi, encore une fois, les choses de luxe, moi je suis pour le partage des richesses, etc. Après, je pense pas qu'on change les choses en étant, enfin, comment dire, agressif ou envieux vis-à-vis des gens qui ont beaucoup. Enfin, pour moi, c'est pas ma façon de voir la vie. Et je pense qu'on fait changer les choses en leur donnant envie aux gens, en leur montrant les choses de façon différente et pas en disant, ah, voilà, t'as vu les riches. Est-ce que toi, enfin, comment tu vois, comment tu as eu des interactions avec eux? Et peut-être qu'au fur et à mesure des 3 mois, ça a peut-être pu changer. Comment ça s'est passé?
Je suis pas réacte non plus. Si t'es riche, enfin, t'as forcément eu une période où, enfin, c'est jamais simple pour qui que ce soit qu'on soit né avec une couche dorée ou pas. Effectivement, il y en a qui sont plus simples, mais on a tous grandi avec nos peurs, nos complexes et tout ça. Donc, tant mieux si t'as de l'argent et que tu veux le dépenser, en fait. Et ça s'est toujours bien passé avec les passagers. Le boulot d'infirmière sur un bateau, c'est ce qui est vraiment difficile, c'est que donc je suis avec un médecin. Sur le bateau où j'ai travaillé, j'étais avec un médecin. Et en fait, il y en a toujours un de nous deux qui est obligé de rester à bord. Et en fait, la deuxième personne, au cas où il se passe quelque chose, est obligée de suivre les expéditions ou alors les excursions avec les passagers. Du
Obligé.
coup, c'est vraiment pas désagréable et ça a l'avantage surtout de créer des liens avec des gens qui sont là pour profiter de leurs vacances et en même temps qui restent humains. Ils sont fatigués, ils ont envie, ils avaient des envies plus fortes que ce qu'ils voient, ou alors ils sont trop contents. Et tout ça a fait un mix de personnalités qui fait que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens par rapport à une chambre d'hôpital où t'es dans le mal. Là, les gens, ils sont en pleine forme, ils sont là pour kiffer. Et c'est super agréable de voir les côtés positifs
Du métier
de
d'infirmière aussi.
ce métier. C'est
Ouais.
ça.
Là, t'étais pas là pour soigner, t'étais là au cas où. Ce qui change, et je pense que t'avais un côté rassurant pour ces gens-là aussi, s'il leur arrivait un truc.
Exactement.
Donc
Il
les
suffit
échanges
d'une
de.
ou deux questions, et puis ça fait des échanges hyper intéressants aussi, parce que c'est des gens, ils en sont alors, ils ont déjà fait le Groenland l'année avant ou l'année d'avant, avant, et du coup là, c'est vraiment différent, et ils ont toujours des choses à raconter, donc c'est chouette. Puis malgré tout, ils ont quand même le mal de mer et que bah ils viennent quand même prendre le petit patch ou le petit cacheton qui va bien.
Est-ce que c'est quoi ta recette magique? Si tu devais faire des petits ingrédients, c'est quoi ta recette magique pour réussir tes aventures? Mais je dirais en termes surtout, pas tant physique, même si t'es une infirmière, mais c'est plutôt en termes psychologiques. C'est quoi les petits ingrédients magiques que tu mets pour te dire, si je mets ça dans ma trousse magique, je suis sûr de réussir mon aventure avec les bonnes valeurs, les bonnes qualités, ou je sais pas, ou les bons conseils. Qu'est-ce que tu mettrais dedans?
J'arrive plus à trouver le mot en français.
Des
Expectation.
attentes.
Des attentes. Pas trop avoir d'attentes. Quand tu as trop d'attentes, c'est sûr que tu vas pas y arriver, tu vas passer un mauvais moment. Parce qu'en fait, ça va jamais ressembler à ce que tu avais envie. Et c'est là où ça marche pas. En tout cas, chez moi. Donc, justement, rester libre et pas trop mettre de. Il y a 10 ans, j'avais besoin de programmer toutes mes vacances. Aujourd'hui, j'ai à la limite, j'ai la première nuit et puis j'ai la dernière. Quand est-ce que je pars, quoi. Mais quand est-ce que je reviens. Mais sinon, c'est dépendant des contacts que je vais avoir, de la personne. Ah, vraiment, de pas avoir de plan. Quand on voyage, on dit les plans, c'est fait pour pas avoir de plan, quoi. Enfin, finalement, je me souviens plus. Je suis pas très bonne pour les petites phrases comme ça,
Non, il y a une
mais
phrase en
vraiment,
anglais qui
c'est.
dit the no plan is the best plan. C'est-à-dire, en fait, pas de plan, c'est le meilleur des plans.
Exactement,
Tu vois,
grosso
genre,
modo.
au niveau au feeling. Et c'est vrai qu'avoir avoir la première nuit, c'est bien. Tu sais où tu crèches, tu t'acclimates, tu te remets du jet lag. La dernière aussi, tu
Exactement.
vois. Mais après, sans déconner, hein, s'il y a quelqu'un que tu rencontres qui dit vas-y, viens chez moi, j'ai une maison, machin truc, qui dit ah bah non, j'ai réservé mon petit Airbnb, je vais pas pouvoir venir. Donc, ça, c'est, je pense que même aujourd'hui, on est dans le voyage ultra connecté, ultra préparé, et que c'est facile de se préparer, de tout booker à l'avance. Faut pas tomber dans ce piège-là, quand tu vas, encore une fois, pour des voyages. Parce qu'encore une fois, il y a voyage et vacances. Vacances, c'est pour décompresser, se reposer. Et voyage, c'est pour aller vivre certaines choses. Et si tu veux vivre certaines choses, bah, il faut laisser ces choses-là venir à toi, et toi aller vers ces choses-là.
C'est vrai.
Et que si tu
Non.
restes dans ton tunnel, tu vois, c'est bête, mais si t'as, par exemple, loué un véhicule, c'est extraordinaire. Tu vas pouvoir vivre certaines choses, mais tu vas te couper d'autres choses. Tu vas vivre quoi? Tu vas vivre peut-être le fait de te reconnecter avec toi-même parce que tu vas aller dans des endroits qui ne sont pas accessibles en transport. Mais tu vas te couper de beaucoup de rencontres, certainement. Parce que tu vas être dans ton truc, tu vas pas être dans les transports en commun, tu vas pas être brassé dans la vie locale, et tu vas pas avoir ce goût-là. Donc c'est toujours aussi de laisser ta formule de voyage, lui laisser la possibilité d'être un peu, tu vois, à la rencontre des choses et laisser venir les choses. C'est selon moi. Et du coup, je t'ai totalement piqué ta question. J'ai totalement piqué la
T'avais
question.
envie d'en parler, alors
Ouais, j'avais envie de balancer ça. Faire le mec qui s'y connaît un
vas-y.
peu, tu vois. Genre, moi, le voyage, t'inquiète pas.
Moi aussi,
Est-ce que, ouais, c'est
je
ça. Moi aussi, je voyage, t'inquiète. J'aimerais qu'on, avant de poser mes trois dernières questions que j'aime bien poser, est-ce qu'il y a des rencontres, je pense qu'il y en a plein, évidemment, mais des rencontres qui t'ont marqué et en quoi elles t'ont marqué à travers toutes ces années de voyage? J'imagine qu'à chaque fois, il y a une rencontre qui va te marquer pour un sourire, ça t'apporte ça, ou inversement, peut-être un truc qui a été dur et ça t'a apporté ça. Moi, c'est quoi les rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont fait grandir?
Alors, il y a plusieurs rencontres. Il y a une en Nouvelle-Zélande. Je venais de quitter un groupe de potes, j'avais fini le kiwi et là, il fallait retrouver un boulot en plein hiver. C'était compliqué. J'étais au fin fond du trou. J'en pouvais plus. Et là, j'étais allée imprimer avec ma clé USB dans la bibliothèque locale mes CV. Et là, j'ai oublié ma clé USB. Clé USB qui m'avait été donnée par mon ex. Voilà. Vraiment, c'était le dernier petit truc qui me raccrochait à. Et je m'en rends compte 1 heure après. Forcément, je retourne. Quelqu'un avait pris la clé USB, il ne faut pas se leurrer. Et là, mais gros chagrin, quoi. Là, toutes les larmes de mon corps qui partaient, et j'étais là en train d'avancer dans la rue et tout ça. Et là, il y a quelqu'un, trois personnes, une personne en fauteuil roulant, une nana à côté, puis une troisième, je me souviens plus. Et il me demande, mais comment ça va? Est-ce qu'on peut vous aider? Là, j'explique, j'arrive pas à trouver du boulot, ma vie est nulle, bref, le truc horrible. Et là, elle me dit, bah, écoute, je peux rien faire pour toi, mais si tu veux, je peux te faire un hug. Écoute, j'avais jamais été fan des grands câlins, mais alors là, elle m'a peut-être pris 2 minutes dans les bras. Ça m'a fait mais tellement chaud au cœur, quoi. Ça m'a pas résolu mes problèmes, mais vraiment, c'était juste génial, quoi. Tu dis pouf, un regain d'énergie juste parce que une nana dans la rue m'a fait un câlin, quoi. Voilà,
Mais
ça
ça,
c'était waouh.
ouais, parce que c'est un élan de générosité simple et facile en fait que tout le monde peut faire en plus. Et ça t'a, ouais, ça a dû te scotcher.
Ah, ça m'a. Tu vois, j'y pense encore, quoi. Rien que d'en parler, j'ai le sentiment d'avoir les petits poils qui remontent.
Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes comme ça qui t'ont chamboulé, ou peut-être pas forcément bien, en bien ou en extraordinaire, je sais pas.
Alors, moins après, mais j'ai rencontré. On avait fait un groupe où je connaissais pas grand monde, du coup, je suis allée boire un verre avec des étrangers, et là, j'ai rencontré ce mec, forcément toujours une histoire, qui en fait m'a permis de suivre mon intuition. Ça m'a posé un milliard de questions, il repartait pas longtemps après, machin et tout ça. Et j'ai osé lui proposer une semaine de vacances, genre 2 mois après. Genre, nana, on se voit 3 jours et puis après plus rien, mais il revient quand même dans 2 mois, tu vois. Et en fait, ces vacances ont été géniales,
OK.
mais ça m'a surtout permis de dire, ok, quand t'as quelque chose vraiment dans les tripes, il faut y aller, ça peut que être bon, quoi. En fait, ça sera peut-être pas bon pour toute la vie, mais ça sera bon tout court, quoi. Donc,
Ça, c'est
là,
génial. Ça
ça
sera peut-être
c'était
pas bon
fort
pour toute
aussi.
la vie, mais de toute façon, ça sera bon. Et non, mais ça, c'est ça, ce genre de, tu vois, de rencontres et de petits. En fait, c'est exactement ça que je te posais comme question. Quelles ont été les rencontres finalement qui bah, t'apportent un déclic derrière, tu vois? Et ça, j'ai. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Écoute,
Et tu l'as eu.
je vais finir. Ouais, j'imagine. Apparemment, ils ont été assez sympas, ces petits déclics. Je vais finir avec mes trois petites questions traditionnelles. La première, c'est que si, voilà, tu te balades et tu vas dans ton jardin et qu'en fait, tu creuses, peut-être, et tu t'aperçois qu'il y a une petite mallette de 15 000 balles avec des billets. Il y a 15 000 balles dedans. Tu sais pas d'où ça sort. Qu'est-ce que tu fais avec ces 15 000 balles?
Ah, il faut aller à la banque ou aller demander aux gendarmes si quelqu'un les a perdus, mais ça, je vais avoir du mal à le faire.
Ah mais déjà, ok. Non
Je
mais alors la question, je vais te dire, si tu vois, si tu trouves du cash comme ça, et donc tu dis à personne, hein, parce que c'est voilà, tu l'as trouvé, et que
Voilà,
c'est de
ça
façon
c'est
très
clair dans
bizarre
la
de trouver une mallette
question.
de cash, donc t'as, voilà, garde-le. Qu'est-ce que tu
Si je
fais
le garde
avec?
là, je pense pas qu'un tour du monde, ce soit ce qui me plaise.
Ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que t'as déjà bien burné, tu vois, en termes de voyage.
Je vais proposer à un ou deux de mes potes et je vais dire, écoutez, là, c'est le moment. Là, en ce moment, mon kiff, c'est le bateau. Du coup, peut-être, pourquoi pas, un permis bateau plus le bateau. Peut-être pas forcément de l'acheter, mais genre, on part, quoi.
On se fait un
Donc,
kiff avec des potes en bateau. Parce que t'as envie de partager
exactement.
ça aussi, j'imagine, maintenant avec des potes.
Et tout à fait. Du
Putain,
coup,
j'en mets.
ouais.
J'en mets. Bonne réponse. Ok, génial comme réponse.
Je me fiche de la destination, je veux juste
Eh bah, t'as bien
kiffer.
raison. C'est. En plus, je pense que le sentiment. Bah, en plus, si t'as kiffé un peu le bateau, ça va être un sentiment quand tu gères un peu la voile de liberté, de dingue, en fait. De liberté, de dingue. Si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps, pour pouvoir revivre un seul moment de tous ces voyages. Je dis souvent, c'est pas forcément le plus fou, ni le plus triste, ni le plus génial, mais de pouvoir revivre un moment de toutes ces années de voyage, ça serait lequel?
À la fin de ma semaine, de mon mois au Cambodge,
Ouais.
on a fait 3 jours à Bangkok. Du coup, on a traversé tout le Cambodge sur l'autoroute locale, donc des petits cailloux,
Ouais, ouais.
chemin de pierre et tout ça, traversage de la douane
Ouais.
pour arriver sur du béton de l'autre côté. Mais en fait, à ce moment-là, le passage de la douane, je comprenais toujours pas l'anglais, mais c'était ça qui était chouette. C'était vraiment enfin, je me souviens de m'être retournée, d'avoir demandé à mes potes en disant, mais putain, qu'est-ce que je suis censée répondre à ça? Et en fait, là, ce moment-là, c'était un mix de, je suis bien dans ma peau, j'ai kiffé pendant le dernier mois, et là, je me sens forte pour ouvrir toutes les portes. Rien à foutre du douanier qui comprend pas ce que je raconte.
Ah, c'est
Je
malade.
crois que c'est pas mal.
C'est dingue comme des situations peuvent nous mettre des fois qui n'ont rien à voir, qui peuvent nous mettre dans des états sentimentaux, émotionnels incroyables. Ah, je suis en mai. Putain, en plus, tu l'as sorti fluide. Hein. Le souvenir d'il y a 10 ans, mon pote, il est revenu comme ça. C'est que c'était la bonne réponse. Dernière question. Si tu devais, on t'obligeait à répéter la même phrase tous les matins, et une phrase qui soit une citation, une punchline ou une phrase de ta création, qui résume ta vie, ça serait laquelle? Ou en tout cas qui résume ta façon de voir la vie, pardon, ce serait laquelle?
Je vais l'appliquer de celle de ma grand-mère qui disait haut les cœurs.
Allez, tout simplement. Oh les cœurs, c'est une bonne façon de commencer la journée tous les matins. Eh ben écoute Camille, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir ben, fait part de tous ces témoignages, de toute cette évolution, ce chemin personnel. J'espère que ça en a inspiré plus d'une et plus d'un, parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce que tu as fait, et j'espère que tu en as donné à plein de personnes. En tout cas, moi, je trouve ça super inspirant. Internaute, avant de partir, il y a toujours un truc qui nous fait plaisir, à moi et aux intervenants, c'est une petite dédicace en story sur Instagram. Juste, dis-nous ce que t'en as pensé, si t'as kiffé, où est-ce que t'as écouté le podcast, que ce soit en train de faire ta vaisselle ou en train de monter une montagne, ou peut-être en train de ramasser des kiwis dans une usine en Nouvelle-Zélande, parce que ça arrive, j'en ai déjà eu des dédicaces en Nouvelle-Zélande. Et donc continue, nous, ça nous fait super plaisir. Et bah Camille, moi je te dis bonne prochaine aventure. J'ai l'impression que c'est déjà dans le pipe. On sait pas trop ce que ça va être, mais c'est peut-être le voilier. Hein. Peut-être que ça va se matérialiser, le voilier.
Peut-être.
Bah c'est tout ce que je te souhaite. Je te dis
Ouais.
ciao Camille et ciao internaute.
Salut.